La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, de quoi le vide est-il plein ? Je sais, c'est une drôle de question, mais cela ne l'empêche pas de se poser. De l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, on s'est furieusement bagarré à propos de l'existence du vide, jusqu'à aboutir à la fameuse formule de Roger Bacon, « La nature a horreur du vide ». Prise trop au sérieux, cette phrase a même conduit à envisager l'horreur du vide comme une véritable force capable d'agir sur les objets. Ainsi, au Moyen-Âge, on croyait à tort que l'eau, comme tous les autres corps, se contracte quand elle devient solide, autrement dit que la glace occupe moins de volume que l'eau liquide. Et on interprétait le fait qu'une bouteille d'eau se casse sous l'effet du gel en disant que la nature préfère briser la bouteille plutôt que de laisser du vide se former à l'intérieur. Pour résumer cette conception du vide, Gaston Bachelard avait trouvé une jolie formule. Le vide est un facteur d'anéantissement, apportant dans toute substance la contagion de son néant. De nos jours, on définit plutôt le vide comme étant ce qui reste dans un récipient après qu'on en a tout extrait. Cette définition est toutefois problématique, car si le vide existe, c'est qu'il n'est pas rien, c'est qu'il est quelque chose de particulier, mais curieusement, ce quelque chose de particulier qu'il est ne doit pas être enlevé quand on fait le vide, sous peine de faire du vide un pur néant qu'il ne peut pas être, puisqu'on vient de dire qu'il était quelque chose. En clair, pour faire le vide, il faut tout enlever, absolument tout, sauf le vide. D'où la question, à au moins 100 balles, que doit-on inclure dans ce tout qu'on enlève ? Doit-on considérer, par exemple, que l'espace ne fait pas partie du vide et qu'on peut donc l'enlever ? Ou bien doit-on considérer que l'espace est un élément du vide ? Descartes faisait remarquer que nous qualifions de vide une cruche qui contient de l'air, sous prétexte qu'elle est faite pour contenir de l'eau et non de l'air. Nous la disons vide alors même qu'elle n'est pas vide puisqu'elle contient de l'air. On voit par là que pour dire ce qu'est le vide, il faut pouvoir définir ce qu'on enlève. Je peux, en principe, encore ôter l'air que contient la cruche, laissant subsister cette dernière en tant que contenant. Si j'enlève la cruche, il subsiste encore un lieu, un espace. Où dois-je m'arrêter ? Où se termine la panoplie des objets que je dois ôter pour réaliser le vide ? Poser cette question, c'est comprendre que le tout de la phrase « le vide, c'est ce qui reste quand j'ai tout enlevé », va différer selon que je me réfère à telle théorie physique ou à telle autre. C'est seulement à partir des objets auxquels la théorie reconnaît une existence qu'il est possible de définir par antithèse tel ou tel type de vide. Le vide apparaît ainsi dépendant du mobilier ontologique de la théorie que l'on choisit comme référence. Le 26 octobre 1647, Blaise Pascal écrivit une lettre au Père Noël, au révérend Père Noël, le recteur de la Société de Jésus, à propos du vide. On y trouve cette phrase. Il y a autant de différence entre le néant et l'espace vide que de l'espace vide au corps matériel. Et ainsi, l'espace vide tient le milieu entre la matière et le néant. Fin de citation. Phrase géniale qui prend toute sa pertinence dans le cadre de la physique contemporaine. On vient d'ailleurs de comprendre que c'est parce que le vide n'est pas vide que les particules ont une masse. Pour parler de tout cela, j'ai invité un astrophysicien. On sait bien que les astrophysiciens ne sont pas des physiciens atroces, bien qu'ils en soient la contrepétrie. D'autant que cet astrophysicien est Michel Cassé. Bonjour Michel Cassé.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CEA, vous avez publié il y a quelques années « Du vide et de la création » et vous publiez aujourd'hui « Du vide et de l'éternité ». Cela donne l'impression que le vide vous travaille au corps et à l'âme, qu'il aspire votre intellect et vos phrases. On dirait que vous êtes pompé par le vide. Est-ce que vous êtes capable de confirmer cette impression ?
Oui, certes. Par le haut vide. Parce qu'il y a des vides hauts et des vides bas, et des faux vides et des vrais. On va y revenir. Mais il faut bien sûr commencer par le définir le plus soigneusement du monde, si.
Mais est-ce que ce questionnement vient de vous-même, de votre propre histoire, ou est-ce qu'il vient de la physique ?
C'est la physique qui m'a en effet fasciné, envoûté, plus exactement.
Parce qu'elle parlait du vide d'une façon originale ou...
Oui, parce que le vide était porteur de toutes les naissances, en fait. Ce vide est fleuri. C'est l'antithèse qui m'intéresse beaucoup. Le fait que le vide est porteur de ce qui va être. Donc ça n'est pas un non-être.
Il n'est pas le contraire de la matière.
Non, c'est un état de la matière. En fait, le vide, ça n'est pas une chose, c'est plutôt un état. On peut le définir comme l'état d'énergie minimale de la matière. Donc le vide contient quelque chose. Et cette chose, c'est de l'énergie.
Ce sont même ce qu'on appelle des particules virtuelles, si on en reste à la mécanique quantique. Mais bon, je ne veux pas compliquer les choses trop rapidement dans cette émission. Et simplement, puisque je parlais de vos phrases, de votre façon d'écrire, faire entendre à l'auditeur justement votre façon d'écrire qui est très particulière. Autant votre sujet est le vide, autant votre écriture est pleine, parfois poétique. Alors, je vais par exemple lire trois lignes qui sont dans la page d'introduction. C'est un tout petit chapitre qui s'appelle « Les lois de la rature », qui, semble-t-il, sont des lois universelles. Vous dites ceci « J'appellerai vacuel tout ce que nous devons au vide, au vrai vide, le plus bas de tous, et au faux vide, celui qui est au-dessus du plus bas. Qui chantera les métamorphoses de ce haut vide? Je serai l'aboyeur de sonores nouvelles, ni bonnes ni mauvaises, mais d'envergure cosmique. Je céderai parfois à la tendance gasconne à faire passer le verbe dans le donné empirique. » Qu'on me pardonne, j'aurai parfois des élans de provincialisme pascalien dans la capitale des équations. Fin de citation. Bon, vous rappelez au passage que vous êtes gascon. Vous citez Pascal, ce qui est très bien, on vient de le faire dans l'introduction. Et donc, comment est-ce que vous arrivez à tenter de faire parler les équations de la physique dans le langage ordinaire? En fait, c'est pas un langage tout à fait ordinaire, puisque, comme je l'ai dit, il est nimbé de poésie, d'allusions métaphysiques. Est-ce que vous arrivez à faire la part des choses?
Oui, difficilement. En fait, les équations, aussi bien que la poésie, parlent d'un lieu où les mots n'ont plus cours. Mais la physique est un trésor, et un trésor ne mérite ce nom que s'il peut être partagé. Le partage de la physique requiert ce qu'on pourrait qualifier de générosité. Et le plus souvent, les physiciens, audacieux dans leurs hypothèses, ne le sont pas dans leur expression. Donc, par ailleurs...
C'est pas ce qu'on peut vous reprocher.
Exactement. C'est ma tendance. Ma tendance, c'est presque de marcher sur mes deux jambes. Je veux dire, une jambe rationnel, si on peut s'exprimer ainsi, et une jambe sensible, même hypersensible, non pas douloureuse, mais j'allais dire presque ailée. En tout cas, si l'expression m'est personnelle, la physique que je sers, je passe mon ciel à servir la physique. La physique que je sers n'est et collective, elle représente l'œuvre collective de génération et de génération. Et donc je ne suis absolument pas un poète ni un hérétique, je parle de physique. Dans le fond, si j'ose dire, dans le fond.
Vous en parlez dans le fond, mais d'une façon qui est unique, c'est-à-dire c'est une prose qu'on ne lit pas dans les ouvrages de vos collègues astrophysiciens, qui dit les mêmes choses d'une certaine façon, mais qui les prolonge dans des domaines... quasiment métaphysique. D'ailleurs, le titre de votre ouvrage, Du vide et de l'éternité, l'éternité, c'est quelque chose qu'on a du mal à appréhender, y compris en physique.
Absolument.
Et comment est-ce que ce titre invite à la connecter au vide? Est-ce qu'il y aurait de l'éternité dans le vide, du vide dans l'éternité? Comment est-ce qu'il faut comprendre cette association?
Il faudrait presque la comprendre de manière négative. Ça n'est pas de la théologie négative pour autant, bien qu'on puisse se demander s'il ne faut pas ouvrir le débat avec la théologie sur, non pas l'univers, mais ce qu'on appelle le plurivers, qui est une conséquence de la nouvelle vision du vide. Donc il y a des conséquences philosophiques et métaphysiques considérables dans la notion du vide new look, de ce nouveau vide. Et j'attire l'attention des communautés de pensants, si j'ose dire, de philosophes, de métaphysiciens, parce que ce vide risque d'être pris en main par des charlatans et on peut en faire une philosophie de bazar.
Thank you. Bon, il y a toutes sortes de vides, en tout cas, c'est ce que vous expliquez dans votre livre. Il y a le vide du haut, le vide du bas, dont on a rapidement évoqué dans l'introduction. Il y a aussi, parce que vous pensez que le vide est comme le cholestérol, il y a le bon et le mauvais. Alors, c'est quoi le bon vide, c'est quoi le mauvais vide?
Au bon vide, ça me rappelle au bon beurre. Mais... Donc, le bon vide, c'est celui qui est un élément. J'appelle élément, non pas les atomes, mais ce qui constitue la base essentielle de la vie, de l'existence, des astres et de tout ce qui existe. Et on en compte trois, qui sont le vide, la lumière et la matière. Mais il y a une généalogie entre ces trois éléments et une sorte de chronologie. Le vide est premier dans cette, j'allais dire légende, non, c'est pas une légende, c'est une cosmologie ou une cosmogonie.
Mais c'est un vide qui n'est pas le néant.
Absolument. En fait, ce vide est un vide quantique. Cela signifie qu'il est la source d'une chose et de son double antagoniste immortel, parce que le vide est neutre. Le vide ne peut pas être une apparence. Il est comme s'il n'était pas, autrement on ne l'appellerait pas vide. Donc il est neutre électriquement, toutes ses charges sont nulles, je veux dire, sa charge électrique est neutre. Donc, mais en même temps, c'est un substrat, c'est une source dont peuvent jaillir des particules et leur double antagoniste immortel qu'on appelle les antiparticules, de sorte...
De charge opposée, donc voilà. La neutralité est garantie.
Exactement. À d'une certaine manière, respecter, oui, la neutralité du vide. Mais ces phénomènes ne se produisent que sur des laps de temps infimes et on ne les voit pas.
Mais vous disiez tout à l'heure que le vide, c'est, en physique quantique en tout cas, c'est l'état minimal de la matière, c'est-à-dire c'est l'état dans lequel l'énergie est la plus basse possible. Absolument. Alors comment est-ce que des particules arrivent à avoir assez d'énergie pour en sortir? Est-ce que ça veut dire que le vide est une sorte de banquier qui est prêt, oui, à donner ou à prêter plutôt de l'énergie à ces particules à condition qu'elles remboursent dardard, si
j'ose dire. Tout à fait ça. En fait, c'est une banque et une agence de relations publiques.
Bon, banque, on vient de comprendre.
Banque, on comprend.
Agence de
relations publiques, c'est que les forces de la nature sont convoyées par des messagers et le vide convoque et révoque ces messagers. En d'autres termes, les photons qui transportent l'interaction électromagnétique, les gluons qui transportent l'interaction forte, les bosons W et Z qui sont responsables de la transmission de l'interaction faible, sont des messagers du vide. Donc, comme des poissons volants, ils en sortent, mais ils retombent aussitôt dans le vide.
Alors, il y a une façon quand même de les faire sortir pour de bon, c'est ce que font les collisions de particules qui, en provoquant des chocs très violents entre protons ou entre électrons, déposent une partie de l'énergie de la collision dans le vide et viennent réveiller les particules qui étaient virtuelles, c'est-à-dire un petit peu endormies.
Absolument. Il y a deux manières, en fait. La première consiste en effet à exciter le vide. Ce qu'il faut dire, c'est que le vide, c'est l'état sans particules réelles, c'est-à-dire particules durables, celles qui constituent le support matériel de toute chose.
Mais elles sont toutes là virtuellement.
De particules virtuelles. Comment faire passer une particule virtuelle dans un état de réalité? Il y a deux manières. La première consiste à dire exactement ce que vous avez suggéré, c'est exciter le vide, d'une certaine manière, l'ébranler de telle
le chauffer.
De sorte. Le chauffer, c'est ça. À ce que émerge de lui une paire particules, antiparticules, ou un photon, le photon n'ayant pas de charge électrique, peut émerger seul. Ou accompagné, d'ailleurs. La deuxième manière est liée au trou noir. La frontière du trou noir est un couperet qui sépare les paires de particules virtuelles. Donc, le vide est en bouillonnement permanent, les particules virtuelles, plus et moins, émergent, puis s'annihilent, enfin, donc elles sont entre guillemets créées, et ensuite elles se retrouvent, et on dit qu'elles s'annihilent pour redonner l'énergie initiale, ou la pure énergie initiale, par exemple de la lumière. La lumière peut se transformer en positon, donc en charge plus et en charge moins, et la somme des deux est nulle, donc la matière et l'antimatière sont entre deux lumières, la lumière qu'on peut appeler initiale et la lumière finale. Donc, ce vide ne peut pas être conçu en effet comme un néant, puisque c'est un élément créateur. Donc la physique quantique dit, il y a de minuscules genèses et des micro-fins du temps. Par exemple, quand une paire particule-antiparticule est créée, on pourrait appeler cela une genèse, une création. Et quand le plus et le moins se retrouvent et s'annihilent pour redonner le zéro, on peut appeler ça une fin des temps, une apocalypse. Mais si on élargit cette description à la cosmologie, on peut se demander s'il y a création d'univers ou s'il pourrait y avoir, en développant cette pensée quantique, en l'élargissant de manière extrême, on peut se demander s'il n'y aurait pas de création d'univers et d'annihilation d'univers.
C'est-à-dire que le vide quantique serait le lieu d'une sorte de fluctuation.
Absolument.
Il y a un petit côté...
C'est le terme. J'ai oublié.
Fluctuation, et qui, oui. Chaque fluctuation engendre un nouvel univers qui lui-même va se finir en vide quantique, qui lui-même va se trouver excité. Enfin, une fluctuation va donner un autre univers, etc.
C'est exactement ça. Le terme clé, c'est fluctuation. Quantique est synonyme de fluctuant. Donc ce sont...
Vous dites que le vide est parkinsonien, c'est ça que vous voulez dire ?
Il est en réalité...
Il est tremblant.
Il est tremblant, même s'il n'est pas caressé par le vent. Un peu comme le pendule. Donc si on fait valoir le principe d'incertitude d'Heisenberg qui vous est cher, un pendule ne peut pas être éternellement en repos pour la raison toute simple, c'est que le principe d'incertitude l'interdit. En d'autres termes, il ne peut pas avoir une position fixe, donc... une précision de positionnement absolu en même temps qu'une vitesse nulle. Et donc, on appelle cela énergie 2.0. Donc, la meilleure illustration du vide, c'est cela. Le pendule ne peut pas être au repos, il a toujours... Il vibre imperceptiblement, mais tout ressort. J'allais dire, oscillateur harmonique, ce qui est presque un terme technique, mais que l'on peut considérer comme... une métaphore ou comme une généralisation du ressort.
C'est-à-dire que l'incertitude au sens de la physique quantique de Heisenberg donne vie au pendule, il ne peut pas être complètement au repos.
L'immobilité de la mort n'appartient pas à la... Voilà. Dans la mécanique quantique, ça veut dire que la mécanique quantique a un élément, j'allais dire presque de vie, ou d'éternité, ou de création permanente. Donc ça remet en cause... La genèse ex nihilo, bien sûr. La création ex nihilo, puisqu'il n'y a pas de nihil.
Pas de néant.
Pas de néant. Et ensuite, ça remet en cause la mortalité absolue, parce que la mort est trop précise pour être quantique.
Donc le lien que vous faites, si je comprends bien, entre vide et éternité, c'est celui que vous découvrez en constatant qu'il y a toujours eu au moins du vide quantique.
Tout à fait.
L'univers rempli de matière réelle, disons, n'étant qu'une succession d'épisodes engendrés par des fluctuations du vide.
Absolument. Donc l'élément créateur, c'est le vide. Il est créateur de
l'espace.
Donc
le vide, c'est Dieu.
C'est la meilleure approximation de Dieu en physique.
C'est l'anagramme,
oui,
en latin, en tout cas, le U et le V. C'est...
Mais la différence définitive, elle est d'une importance capitale, c'est que le vide est capricieux. Et il n'a aucune intention, puisqu'il est quantique, donc fluctuant.
Est-ce qu'on pourrait avoir la preuve que ces plurivers ou ces multivers, comme on les appelle aussi, existent ? Et comment trouver des moyens expérimentaux ou observationnels de tester cette hypothèse ? Parce qu'en matière de scénario cosmologique, il y a quand même le choix.
Oui, tout à fait.
Vous avez parfaitement Donc comment trier ?
Alors, il y a deux choses. D'abord, ce vide quantique a un effet explosif. Puisque c'est lui qui a mis en branle, je dirais, l'expansion de l'espace et qui l'a même rendu fabuleusement rapide. Au début de l'histoire que raconte la cosmologie, on appelle ça constante cosmologique. Alors, je ne sais pas si c'est un bon vide ou un mauvais vide, parce que, pour revenir à ce que vous demandiez sur la bonté ou le caractère mauvais du vide, c'est que, malheureusement ou heureusement, la physique des particules et la cosmologie ne sont pas d'accord sur la densité d'énergie du vide.
Ils ne sont pas du tout d'accord sur le vide lui-même.
Sur le vide lui-même.
C'est pour ça que j'avais une réserve quand vous dites que le vide quantique a toujours existé, sans nommer le fait que son statut est en contradiction avec l'autre pilier de la physique actuelle, qui est la relativité générale.
Oui et non.
Et tant qu'on n'a pas compris comment les associer, il est difficile de conclure de façon définitive.
Donc, pour répondre à votre question, pour l'instant, le vide est branlant, si j'ose dire. Et il est plutôt lié à la physique des particules. Mais il a été mis en relation avec ce que les cosmologiques appellent la constante éponyme, donc la constante cosmologique, qui a été inventée par Einstein pour contrebattre la gravitation. Donc, pour les cosmologistes, la constante cosmologique est source d'une antigravitation, c'est-à-dire d'une gravitation répulsive.
Qui permettrait, en tout cas dans l'esprit d'Einstein, de maintenir l'univers en équilibre, donc dans un état stationnaire.
Oui, mais si on dérègle un peu cette constante cosmologique, alors on met l'univers en super-expansion. Ça s'appelle l'inflation. Ou ça s'appelle l'énergie noire, qui accélère l'expansion de l'univers. Or, en 1998, il a été découvert que l'expansion de l'univers, au lieu de ralentir, s'accélérait. Donc, cette constante cosmologique devient une nécessité logique. Maintenant, sa valeur est difficile à expliquer, extraordinairement difficile à expliquer. Il y a quelque chose de pourri au royaume de la physique, c'est que les cosmologistes annoncent un chiffre de 10 puissance moins 29 grammes par centimètre cube, alors que les physiciens des particules annoncent une valeur largement supérieure, voire ridiculement supérieure.
Il y a des ordres de grandeur qui les distinguent.
10 puissance 94 grammes par centimètre cube, ça fait le facteur. La différence étant de 10 puissance 120.
Ça fait beaucoup.
C'est plus que beaucoup.
Est-ce qu'on peut dire que c'est une mesure chiffrée pour le coup de la contradiction conceptuelle qu'il y a entre la physique quantique et la relativité générale ?
Absolument. Donc, pour répondre à votre question, pour accréditer cette théorie, il faut réconcilier la reine noire et la reine blanche de la physique, c'est-à-dire relativité générale d'un côté, qui est une représentation géométrique du monde, avec la mécanique quantique, qui est une représentation que j'appelle matérialiste du monde, parce que d'un côté la gravitation, de notre côté est la matière, et les géomètres aiment la gravitation, et les matérialistes aiment la mécanique quantique. Donc il y a deux écoles de pensée qui aimeraient annoncer les fiançailles de la relativité générale et de la mécanique quantique. Le travail est en cours.
Enfin, les fiançailles, ça ne suffit pas, il faut un mariage.
Le mariage sera très difficile, parce que les a priori des deux théories, enfin les fondements même, sont réellement contradictoires.
France Culture, la conversation scientifique.
Étienne Klein.
Vous avez parlé de reine blanche et de reine noire, et comme vous aimez les mots, je me permets de vous signaler que l'énergie noire a pour anagramme la reine ignorée.
Voilà.
Et en effet, vous dites que c'est la constante cosmologique, mais on connaît des physiciens qui disent que c'est autre chose, que ça pourrait être un champ scalaire présent dans le vide,
tout
précisément.
À fait. Absolument.
Et donc, mais il y a des débats.
Bien sûr qu'il y a un débat. Et le champ scalaire, alors, bonne nouvelle, le champ scalaire existe. Jusqu'à présent, c'était une entité purement hypothétique. Mais la découverte du boson de Higgs indique qu'il existe, en effet, au moins un champ scalaire. Et cette constante cosmologique ou le vide quantique ont toutes les propriétés et même les effets d'un champ scalaire. C'est une bonne nouvelle.
Bon, ça veut dire que pour les auditeurs, un champ scalaire, c'est un champ qui est décrit par un nombre scalaire, un nombre ordinaire, si on peut dire.
Oui.
Et en effet, le champ de Higgs est décrit par un tel scalaire, donc c'est un champ scalaire. Mmh. Le fait qu'il en existe un laisse penser qu'il peut en exister d'autres, dont un qui constituerait l'énergie noire.
Exactement. Mais pour revenir à ce qu'on disait sur la manière de réaliser ce qui est virtuel, la deuxième manière, la première manière, c'est celle que vous dites, on accélère des particules, on excite, on irrite le vide qui...
On l'énerve.
On l'énerve, c'est exactement ça. Il monte sur ses ergots.
Donc la matière, c'est du vide énervé, en fait.
Voilà. Alors, la question est de savoir pourquoi ce vide est en colère. Enfin, au début. Si on pose un vide en colère, tout en découle, c'est-à-dire que la lumière vient après le vide, la lumière est par rapport au vide, ce que la fille est par rapport au père, la lumière donne naissance à la matière, à son double antagoniste et mortel, il y a une guerre dans le ciel, la matière domine très légèrement et elle donne naissance à vous et aux étoiles et à moi éventuellement.
Attends, aux étoiles d'abord.
Mais il existe une autre manière qui est extraordinaire, qui fait valoir que la gravitation ou l'horizon des trous noirs, qui est une sorte de frontière idéale, qui n'est pas une frontière matérielle, qui sépare l'intérieur de l'extérieur des trous noirs, coupe les paires virtuelles en deux, donc les empêche de se rejoindre et de se donner le baiser de la mort. Ce qui fait que la frontière du trou noir réalise le virtuel. Donc les trous noirs rayonnent. Donc ils sont ni trous ni noirs, ils sont gris sur les bords.
C'est ce qui a été découvert par Hawking.
Ah, c'est bien tout ça. À fait. Mmh. C'est une très grande découverte. C'est peut-être la première marche, le premier pas vers la gravité quantique. Il y en a bien d'autres. Il y a des théories, bon, les supercorps et la relativité quantique à boucle chère à Carlo Rovelli. Mais celle-ci a au moins un aspect observable. Donc si on prend en flagrant délit, un trou noir, ou si on en crée un au CERN, qui rayonne, alors la thèse du vide et de sa créativité...
Donc ça veut dire que le trou noir, c'est une sorte de laboratoire naturel, oui, qui, si on pouvait le connaître un peu mieux, nous dirait des choses sur la bonne voie théorique,
oui,
permettant...
Mais pas les grands trous noirs, parce que les grands trous noirs ont une température trop faible.
C'est quoi la taille qu'il vous faut ?
10 puissance 15...
Masse solaire ?
Non, grammes.
Un gramme.
Une montagne. C'est-à-dire que, si on imagine que des trous noirs ont été formés au début de l'univers, il n'y a aucune raison de supposer que ça n'est pas le cas, puisque toute forme de particules et d'objets peut émerger de la chaleur initiale. Ce qui se désintègre, alors le trou noir a une certaine durée de vie puisqu'il s'évapore, alors dans ces conditions il perd de la masse, et si on calcule le temps qu'il faut pour qu'un trou noir créé à l'origine périsse aujourd'hui, donc on puisse observer sa désintégration, on trouve l'âge de l'univers. Et ces objets-là émettraient des rayons gamma, donc cherchons-les dans le ciel.
Et ça a été fait, j'imagine.
Oui, mais malheureusement, vainement.
On n'a pas trouvé.
Non. Donc, c'est une possibilité. Une autre possibilité, mais beaucoup plus ambitieuse, serait de chercher dans le rayonnement cosmologique fossile, qui est la lumière la plus antique qu'on puisse imaginer, avant même les étoiles, des traces, des balafres, qui pourraient indiquer des collisions d'univers dans l'antiquité cosmique.
C'est-à-dire entre notre univers et un autre qui existerait dans un vide élargi.
Exactement, une autre bulle, parce que ce qu'annonce cette théorie extraordinaire, que j'appelle Veuve Clicquot, c'est que nous sommes dans un champagne généralisé dont nous n'occupons qu'une bulle.
Pas de publicité à l'antenne.
Mais champagne pour tout le monde, n'est-ce pas ? Et donc, des bulles se forment. Imaginons que notre univers bulle soit entré en collision au commencement, entre guillemets, avec une autre, alors on trouverait une balafre dans le rayonnement cosmologique fossile.
Voilà. L'univers serait une chambre à bulles.
On peut dire. C'est une
alors,
belle formule.
C'est quand même des concepts difficiles que vous évoquez là. Pour se détendre, je vous invite à prononcer trois mots qui sont liés les uns aux autres, en les faisant précéder du pronom « je ». Oui. Alors ces trois noms, c'est « néant », « vide », oui, et rien.
Je, vide.
Oui, je, néant.
Je, néant,
vide.
Je, rien.
Non, je, néant, vide, rien.
Ah, je, néant, vide, rien. Ah, je, néant, vide, rien. Voilà. Oh, formidable.
Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Ça veut dire que si j'avais envie de quelque chose, je l'aurais déjà.
Vous voulez un verre d'eau ?
Oui.
Bon, enfin, on voit quand même, on entend que la notion de vide est devenue très polymorphe, que, en la matière, l'abondance de la mitraille ne compense pas toujours l'imprécision du tir. Que quand on entend le mot vide et qu'on le voit, par exemple, dans des textes de philosophes grecs de l'Antiquité, on a tendance à penser qu'il s'agit de la même chose. En fait, c'est un mot dont le contenu, la signification, n'a cessé d'évoluer au cours des âges. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait raconter une histoire complète de la physique en disant simplement comment la conception du vide a été modifiée au gré des âges et des découvertes? Est-ce que, en fait, parler du vide, ça n'est pas parler des théories physiques?
Si.
Ça n'est pas parler de la matière, de la façon dont on la comprend, et qu'en disant le vide, on dit le reste, en fait?
Oui, en creux.
En creux, on dit le reste.
Mais bon, il lui manque quand même quelque chose. Ce vide a quelque chose d'un peu frustrant, c'est qu'il lui manque un repère. C'est-à-dire que la notion géométrique de vide laisse insatisfait, ou plutôt nous amène dans le vertige, ou nous précipite, presque comme dans un gouffre. C'est un mot, trop profond, trop comme l'ivresse des profondeurs. Donc il entraîne une ivresse métaphysique un peu douteuse. Maintenant, si on dit...
Dont vous êtes, semble-t-il, victime.
Ah oui, absolument. Mais je suis complètement intoxiqué. Mais si on dit vide et lumière, donc si on l'associe immédiatement à la lumière, alors on se retrouve dans un registre peut-être moins inquiétant, puisque le vide devient le magicien qui produit la lumière, et la lumière, etc. Donc on retrouve... non pas le Fiat Lux, mais on retrouve un élément, disons peut-être un peu moins desséchant que le vide. Bon, je dis que le vide est une agence, on l'a dit, une agence de relations publiques et de communication, qu'il est fleuri, etc. Mais c'est pour se rassurer, parce que le nom même est sujet à caution, comme vous le dites, donc... Je pense qu'il faudrait le débaptiser ou le rebaptiser, parce qu'il entraîne énormément de confusion. Et ce vide-là n'a rien à voir avec le nirvana, je crains que ce vide donne des prétextes à l'ésotérisme, alors que c'est une notion de physique.
Mais pas que de physique.
Pas que de physique, de philosophie, de métaphysique. C'est un terme très dangereux. En fait, s'il n'est pas...
Bergson disait aussi que c'était une idée destructrice d'elle-même. Quand on confond le vide et le néant, oui. Dès qu'on se met à penser au néant, on se met à penser à quelque chose que le néant ne peut pas être puisqu'il est rien. Donc penser le rien, ça n'est jamais penser à rien.
C'est tout à fait.
Et donc il est toujours l'objet d'une forme de projection de ce qu'on sait par ailleurs.
Absolument. Et donc, je pense que la philosophie devrait se pencher sur ce vide new look.
Est-ce que les philosophes vous lisent, dialoguent avec vous?
Je ne sais pas. Non, pas pour l'instant, en dehors de vous.
Moi, je ne suis pas philosophe.
Quand même. Tout de même, je dirais.
Mais bon, on a dit tout à l'heure que le vide était plein. Pas complètement plein, mais il est plein virtuellement de tout ce qui est.
Oui.
On a découvert en 2012 une particule au CERN qui s'appelle le boson de Higgs, et cette particule est associée à un champ qui est dans le vide. Bon.
Oui.
Et on a compris que la masse des particules élémentaires vient du fait que précisément le vide n'est pas vide, elles interagissent avec ce champ, et c'est de cette interaction que résulte la masse qu'on leur trouve. Est-ce que ça veut dire que on est en train, par des expériences de physique, grâce à des grands collisionneurs, de toucher le vide?
Absolument.
D'expérimenter le vide?
Absolument. Donc le vide existe, parce qu'il a des effets physiques mesurables. Mais avant même que le CERN mette en évidence le boson de Higgs, les physiciens de laboratoire, notamment de l'ENS, travaillant sur ce qu'on appelle l'effet Casimir, ont accrédité l'existence du vide. L'effet Casimir tient au fait que dans un interstice peuvent se glisser des particules de petite taille et pas les autres. Ces particules peuvent être définies comme ayant une certaine taille, qui est, en gros, la taille du halo de leur influence. Si on essaie de les faire passer à travers une porte trop petite, donc celles qui sont grosses ne peuvent pas passer, celles qui sont petites peuvent passer, Et donc, ceux qui ne peuvent pas passer poussent des deux côtés de la paroi, si bien que deux parois dans le vide, mais le vide de laboratoire, semblent s'attirer. Et ceci est lié à la notion de vide que nous venons de développer. Et ceci est mesuré, ça s'appelle l'effet Casimir. Et puis, d'autre part, le vide agit comme une substance qui accentue ou amenuise les forces. Ce qui fait que les interactions ou les forces de la physique dépendent de l'énergie à laquelle on les soumet.
Donc, par exemple,
l'interaction faible peut devenir forte et l'interaction forte peut devenir faible. Donc, quand on dit interaction faible, c'est aux énergies ambiantes. Mmh. Mais au CERN, l'interaction faible ne l'est plus, puisqu'elle elle devient électromagnétique.
Donc, ça veut dire que dans le passé, puisqu'en fait le CERN recrée dans le présent les conditions physiques du passé, c'est-à-dire que dans le passé, la force des forces était différente.
Le lion paissait avec l'agneau.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que le faible était fort et inversement. Donc il existait non pas quatre forces, ou trois forces disons, quantiques coalisées, mais une seule, qui était une super force, à une énergie de 10 puissance 16 de GeV, c'est-à-dire 10 puissance 16 fois la masse du proton, inaccessible au CERN, mais qui fait foi, qui parle à l'esprit.
Ça plaît beaucoup cette idée du 1 dans le passé, alors qu'il y a trois forces distinctes aujourd'hui. Mais le mot superforce ne renvoie-t-il pas à la supersymétrie ?
Oui et non. Cette superforce, non, pas pour l'instant, mais on peut ajouter la supersymétrie. En fait, c'est la force unie que les Américains appellent grandement unie. C'est-à-dire la grande unification, la force de grande unification. Et ceci n'est possible, donc cette unification n'est possible que par le truchement du vide, qui amoindrit les forts et qui renforce les faibles. Et donc, il joue le rôle d'un écran ou d'un anti-écran. Et donc c'est la démonstration du fait qu'il existe.
Le vide oblige les forces dans les interactions à cesser de se distinguer par leur intensité.
Et inversement, lorsqu'il y a refroidissement, il y a ce qu'on appelle brisure de symétrie, ou transition de phase, ou passage d'un état à un autre, parce que les forces se distinguent et se différencient. Donc au début, il existait une force quantique, triple, qui s'est séparée en deux, et ensuite l'une des deux s'est de nouveau séparée, pour donner la force électromagnétique et l'interaction faible.
Donc le vide, c'est le communisme de la force.
Oui, c'est une sorte, effectivement, c'est un agent unificateur. Donc il est créateur, il est unificateur, il crée l'espace. Il est père de la lumière. Donc qu'est-ce qu'il n'est pas ? Qu'est-ce qu'il n'est pas ?
Michel Cassé, il y a une page de votre livre, c'est la page 183, où vous parlez de vie de mère et de vie de fils. Alors je lis la phrase qui m'a interrogé, disons. Vous écrivez ceci. Du passage du vide perché au haut plateau, la physique classique se fait une montagne. Le perceur de tunnels quantiques entre en action et le vie de mère s'écoule dans le vide fils qui entre aussitôt en inflation. Ouh. Est-ce que vous pouvez expliquer cette phrase sibylline?
Oui. Un vide peut se transformer en un autre vide. Et le passage se fait par ce qu'on appelle l'effet tunnel, qui est un effet quantique bien connu qui explique la radioactivité, par exemple, de l'uranium-238. Une particule sort du noyau alors que la physique classique l'interdit. la physique.
En franchissant une sorte de barrière.
Voilà. Cette particule.
Comme s'il y avait un tunnel dans la barrière.
Voilà. Parce que l'onde se propage ou traverse le mur, alors que la particule se cogne la tête. Par exemple, le fait que les ondes radio traversent les murs montre bien que les ondes ont une capacité de propagation dans les murs et les objets solides. Donc, si on applique le même raisonnement au vide, le vide étant un état d'énergie, un état, je dis bien, il peut changer d'état. Le vide peut changer d'état, passer d'un état à un autre.
C'est-à-dire qu'on peut être dans un faux vide aujourd'hui et voilà. Basculer dans un vrai vide.
Oui, tout à fait.
Et ça se traduirait comment ?
Ben, par effet tunnel, alors une catastrophe incommensurable. C'est-à-dire que la physique en serait complètement bouleversée, les atomes se détruiraient.
Mais nous aussi, alors.
À tout.
Pas que la physique.
Oui, mais ce serait bien parce que personne ne s'en rendrait compte. Donc, peut-être qu'on est déjà passé, non, je plaisante. Et donc, il y a toute une généalogie de vide. Alors, pour m'amuser, je dis le vide mère. Pourquoi ? Parce que je n'ai jamais su discerner le sexe du vide. Pourquoi le vide et pourquoi pas la vida, après tout ? Et donc, un vide peut, non pas en cacher un autre, mais donner naissance à un autre vide, et donc il y a une succession de vides.
Ça veut dire qu'il y a une sorte d'infinité de vides, voilà. D'énergies différentes, mais le vrai, vrai vide, c'est celui dont l'énergie
minimale,
serait la plus basse,
voilà.
Vers laquelle on tendra.
Exactement. Minimum, minimorum. Mais où est cette énergie ? Personne ne le sait. Personne ne sait quelle est cette énergie. Elle peut être négative.
Donc qui empêche de penser que nous y sommes pas déjà,
Parce que nous sommes au-dessus du zéro. Parce que la densité d'énergie du vide, c'est de 10 moins, elle est très faible, mais elle n'est pas nulle. D'autre part, le zéro est arbitraire. C'est-à-dire que, le vide, imaginez qu'il y a un état d'énergie plus bas que le zéro. Donc, il est plus bas que celui où nous sommes. Auquel cas, une transition est possible. Mais si on passe d'un état, de notre état d'énergie positive, à un état d'énergie négative, le vide, au lieu d'accélérer l'expansion de l'univers, la freine. Auquel cas, on retrouve avec peut-être grande satisfaction le mythe athée de l'éternel retour. C'est-à-dire que si notre vide, j'allais dire qui est aux cieux, se transforme en vide d'énergie moindre, alors, l'effet répulsif du vide peut devenir un effet, au contraire, attractif, auquel cas, le monde s'effondre. Enfin, je veux dire, l'univers, notre bulle d'univers s'effondrerait.
Bon, je vois que beaucoup de choses sont possibles.
Oui.
Mais c'est le temps de conclure. Alors, Michel Cassé, je voudrais livrer en guise de conclusion pour cette émission, la conclusion brève que vous avez rédigée dans votre livre qui s'intitule « Du vide et de l'éternité » qui vient de paraître chez Odile Jacob. Voilà la conclusion dont vous dites que c'est une conclusion cavalière. Je vous cite, la question du calcul des probabilités dans une multiplicité confondante d'univers est l'une des plus complexes qu'un physicien non supranormal puisse rencontrer sur sa route vers l'harmonie. Je ne m'y risquerai pas, de peur d'y perdre mon lapin du pays des merveilles et ma chemise étoilée. Je reste donc physicien astral, ce que je ne peux écrire clairement en quelques lignes, je l'abandonne aux licornes et aux trous noirs. Ce sera notre conclusion pour cette émission. Merci à vous, Michel Cassé. C'était La Conversation Scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Catherine Madure, à la technique Juliette Delperrou et à la réalisation François Connac. Ensuite, la boîte à lettres de Cécile Gilbert, puis vous retrouverez Continent Musique par Mathieu.